La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Raissa Maritain et Jacques Maritain dans la création poétique. Bonjour. L'année donc est dédiée à la poésie de Raissa Maritain. En aller-retour avec Jacques, peut-il expliquer la poésie? La poésie de Raissa illustre-t-elle les écrits de Jacques? Nous savons que c'est une œuvre à quatre mains. Et je voudrais, ce mois-ci, que nous nous arrêtions sur un écrit un peu atypique. Il s'agit de Théonas. Théonas, c'est écrit, publié, pardon, en 1921, plutôt écrit en 1920. C'est un dialogue qui va mettre en scène plusieurs personnages et nous retrouvons une veine, on va dire, platonicienne du dialogue, ou tout simplement une veine philosophique. Le dialogue fait tout de suite, pose une contradiction ou du moins une discussion entre deux positions opposées puisque chacun pense différemment du voisin, ce qui permet, un, de nuancer la pensée, deux, de donner des arguments pour distinguer, trois, peut-être, de confronter une idée à une autre. Cet écrit de Maritain est donc polémique. Il vient juste avant Antimoderne, qui par son titre même porte la dimension polémique en elle. Mais cette œuvre est très particulière parce qu'elle est dédiée à la mémoire de mon ami Pierre Villard, caporal au 26e d'infanterie, mort pour la France, dans le secteur d'Amblenie, le 28 juin 1918. Pierre Villard est un ami de Maritain qui échange avec lui non seulement autour de la philosophie, mais autour de la question de la foi et de Dieu. Pierre Villard léguera son patrimoine, son héritage, à deux légataires, Maurras et Maritain, qui se retrouveront ainsi soudés. Maurras proposera de créer une revue, un organe à l'Action française. Maritain s'empressera de dire oui pour remplir les colonnes de philosophie de cette revue. Ce qui fait que Maritain est lié à l'Action française sans jamais y avoir appartenu. C'est une confusion qui, hélas, lui vaut cher, parce qu'il y a encore beaucoup de lecteurs, de philosophes qui refusent ou qui rejettent Maritain sans avoir ouvert un livre, au simple motif qu'il aurait été de l'Action française, ce qui est effectivement une grave erreur historique. Alors, arrêtons-nous sur cette œuvre qui est, à mon avis, fort intéressante par rapport à la thématique choisie, celle de la création poétique, parce qu'on a une véritable mise en scène fictive. Je vous donne le début. Un matin de printemps, c'était en avril 1920, comme je passais place de la Sorbonne, je rencontrais mon vieil ami Philonos. Il arrivait de Genève et considérait, une valise à la main, les devises qui ornent la statue d'Auguste Comte et dont il semblait méditer l'opportunité, ordre et progrès. Mise en scène réaliste, un effet de réel, un matin de printemps, il y a effectivement cette statue d'Auguste Comte, place de la Sorbonne, on a une datation, avril 1920, on a l'arrivée avec la valise, voilà. Un effet de réel, comme dans les dialogues de Platon, où on peut avoir près d'une source une racine de platane, et ainsi commence le Phèdre, on va se rafraîchir les pieds dans l'eau, en discutant, ou bien on remonte du Pirée, on descend au Pirée, on en remonte dans la République, à l'instar du mythe de la caverne. Et voilà la présentation donc de cet ami. Il a beaucoup voyagé depuis la mort d'Hylas, et j'ai chez moi quelques lettres de lui, fort rare d'ailleurs, et reçu à long intervalle, qui montre avec quel zèle, d'amateur raffiné, il n'a cessé de suivre en tout pays le mouvement des idées philosophiques. Donc un voyageur, un humaniste, quelqu'un qui se renseigne, on pourrait dire un cosmopolite, peut-être même un citoyen du monde, pour reprendre l'expression de Kant, toujours jeune, loyal et beau, avec les mêmes yeux bleus, faïence et le même front noblement chimérique, il n'a guère changé, en somme, depuis qu'il fréquentait chez l'évêque Berkeley, où je le vis pour la dernière fois en 1744, et où il professait l'immatérialisme, tout en donnant ses soins à la préparation de l'eau de goudron. « Je voudrais bien, me dit-il sur un ton très excité, que vous m'aidassiez à résoudre le problème suivant. Comment est-il possible que des hommes intelligents et qui se réclame sans cesse du primat de l'intelligence, semble actuellement en France ne souhaiter autre chose que l'asservissement de l'intelligence. Et fait de réel par la critique, c'est-à-dire par un étranger qui arrive en France et qui a un regard critique, là où des Français sont pris par l'habitude et ne voient plus les toiles d'araignée au plafond, la saleté sur les murs. Cet effet a été utilisé par Montesquieu dans les Lettres persanes, 1721. Rika et Usbek sont deux persans qui correspondent et qui s'étonnent de la vie frénétique qu'on mène à Paris, du fait qu'on ait un roi de France vieux, des hauteurs de la coiffure de ces dames, etc. Donc, servir l'intelligence, nous sommes dans une première partie qui s'intitule « La liberté de l'intelligence ». Théona s'est divisée en chapitres qui ont des titres tout à fait programmatiques que voici. Système des harmonies philosophiques pour le 11e chapitre, le progrès de l'esprit pour le 10e, philosophie de la révolution, les antinomies du progrès nécessaire, le mythe du progrès, la mathématisation du temps, théorie du succès, de l'humanisme chrétien pour le 4e chapitre, l'intelligence et le règne du cœur, la théorie du surhomme et pour le 1er, la liberté de l'intelligence. Qu'en est-il donc de se servir ? L'intelligence, à leurs yeux, n'a pas de plus haute destination. Tel est le constat de Théonas. Il voudrait qu'abdiquant son indépendance, elle travaillât comme une mercenaire, au service de telle ou telle vérité jugée salutaire. Quelques-uns même, et l'on m'a dit que vous les approuviez, prétendent ramener la philosophie aux disciplines de l'école, sinon ressusciter les vieux problèmes de la théologie. D'autres répètent à l'envi qu'à aucun prix, l'intelligence ne doit se croire dispensée de servir. Votre Aristote, cependant, pensait que l'intelligence est au sommet de l'être et qu'elle doit être servie et non servir. Parmi les critiques, vous voyez que le néo-thomisme, pour le dire simplement, est lui-même englobé. Quand on dit quelques-uns même, et vous les approuviez, prétendre amener la philosophie aux disciplines de l'école. On peut voir que Maritain va se démarquer de cette dénomination de néo-thomiste de l'école, c'est-à-dire d'une scola, d'une scolastique, de quelque chose qui est une recette, un stéréotype. Donc l'ouverture de cette fiction est forte, il s'agit d'une polémique, il s'agit d'une critique, dans une inscription profondément française, hein, d'un subterfuge utilisé pour critiquer, j'ai fait référence aux Lettres persanes de Montesquieu, mais on pourrait faire référence à d'autres dialogues. Et la discussion polémique permet de donner des arguments. Le premier, c'est revoir la définition d'Aristote. Il se pourrait, lui répondis-je, qu'Aristote et vous n'ayez pas de l'intelligence une notion tout à fait semblable. Il se pourrait aussi que toutes vos difficultés dépendissent d'un malentendu. Mais vous-même, mon ami, estimez-vous très haut l'intelligence depuis que vous êtes devenu bergsonien. Je l'estime pour les plaisirs qu'elle nous donne. Pour le reste, je crois qu'elle n'est bonne qu'à faire de nous des géomètres et à nous jeter, si nous prenons cette lanterne sourde pour un soleil, dans l'illusion métaphysique. Vous le voyez, elle n'est bonne qu'à faire de nous des géomètres. C'est une référence à Descartes qui a marqué la philosophie moderne. Invention à deux voix de Jean-Sébastien Bach pour un dialogue philosophique, cela s'imposait. Alors je vais tout de suite passer au chapitre 10 après cette mise en scène. Il est intitulé « Le progrès de l'esprit ». Il revient donc sur la notion de progrès, sur Auguste Comte. Pour rappel, Auguste Comte voit différents ordres, différentes étapes dans l'histoire de l'humanité. L'étape, on va dire, mythique, l'étape métaphysique et l'étape scientifique. L'étape mythique correspond au poète, au mythe, l'étape métaphysique au métaphysicien, au philosophe, et l'étape scientifique à une façon moderne de voir l'accès au vrai par la science. Revenant sur le progrès de l'esprit, nous allons rester dans notre sujet, qui est celui de l'art, à partir d'une définition, ou plutôt d'une question, de Philonous à Théonas. Philonous pose la question « Parlez-nous de ce qui constitue le domaine le plus spécial de l'intelligence ?» Théonas répond « Dans les beaux-arts, qui sont le fruit le plus purement intellectuel de l'intelligence opérative, c'est-à-dire l'intelligence qui opère, qui fait, ce n'est pas le progrès qui règne, c'est le changement, à intervalles plus ou moins longs. Je veux dire une certaine loi de renouvellement et d'innovation. Pourquoi ? Parce que l'artiste a pour tâche d'incarner la beauté dans une matière déterminée, et que la matière est infiniment étroite par rapport à la beauté, en sorte que toute forme d'art, si noble qu'elle soit, est destinée à s'épuiser et à faire place à une autre. Je sais bien que du côté du métier, l'art comporte un certain progrès, dans la mesure même où métier suppose tradition, enseignement, collaboration humaine à travers le temps. Mais l'établissement progressif des traditions de métier, n'exigeant que les conditions les plus simples de vie intellectuelle et sociale, ces traditions peuvent se trouver très suffisamment constituées dans les premiers âges des civilisations. Et dès lors, le cours du temps apportera dans cet ordre des changements sans doute, mais non pas forcément des progrès. Quand il n'amènera pas des régressions, voire comme il est arrivé pour nous à la fin du XVIIIe siècle, un abandon parfaitement rétrograde de ces mêmes traditions. Ajoutez à cela que si le métier et aussi tout le bagage rationnel dont l'art a besoin veulent que l'artiste ait un maître et qu'il prenne rang dans une tradition, l'art lui-même cependant, dans ce qu'il a de plus formel, dans la conception créatrice de l'œuvre, ne relève que de la via inventionis, c'est-à-dire avant tout du don et de l'effort individuel. À ce titre, il peut être aussi parfait ou plus parfait chez ses premiers inventeurs que chez ceux qui viendront ensuite. Et d'autre part, il sollicite sans cesse les renouvellements de fond. Ainsi, nulle raison de progrès nécessaire dans l'ordre de l'art. Et là, Maritain s'arrête. Il met une note, une petite note, qu'il me paraît très intéressant de lire. Pourquoi ? Parce qu'il s'appuie sur un autre dialogue. Dans le volume de souvenirs publié par Ambroise Vollard sur Renoir, je trouve quelques réflexions du grand peintre que je ne résiste pas au désir de citer. Donc voilà Renoir qui va discuter. Le progrès en peinture, dit Renoir, certes non, je ne l'admets pas. Aucun progrès dans les idées et aucun non plus dans les procédés. Tenez, j'ai voulu un jour changer le jaune de ma palette. Eh bien, j'ai pataugé pendant 10 ans. Au total, la palette des peintres d'aujourd'hui est restée la même que celle des peintres de Pompéi, en passant par Poussin, Corot et Cézanne. Je veux dire qu'elle ne s'est pas enrichie. Les anciens employaient les terres, les ocres, le noir d'ivoire, avec lequel on peut tout faire. On a bien essayé d'ajouter quelques autres tons, mais comme facilement on aurait pu s'en passer. Ainsi, je vous ai parlé de la grande trouvaille qu'on a cru faire en substituant le bleu et le rouge au noir. Mais combien ce mélange est loin de donner la finesse du noir d'ivoire, qui en outre n'oblige pas le malheureux peintre à chercher midi à 14 heures. Avec une palette restreinte, les peintres anciens pouvaient faire aussi bien qu'aujourd'hui, il faut être poli pour ses contemporains, et à coup sûr, ce qu'ils faisaient était plus solide. Mais alors, dis-je, si le peintre ne peut raisonnablement rêver une palette nouvelle ? Eh oui, dit Renoir, quel doit être l'objet suprême de son effort ? Cet objet doit être d'affirmer sans cesse et de perfectionner son métier, mais ce n'est que par la tradition qu'on peut y arriver. Aujourd'hui, nous avons tous du génie, c'est entendu. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne savons plus dessiner une main, et que nous ignorons tout de notre métier. C'est parce qu'ils possédaient leur métier que les anciens ont pu avoir cette matière merveilleuse et ces couleurs limpides dont nous cherchons vainement le secret. J'ai bien peur que ce ne soit pas les théories nouvelles qui nous révèlent ce secret. Mais si le métier est la base et la solidité de l'art, il n'est pas tout. Il y a autre chose dans l'art des anciens qui rend leur production si belle. C'est cette sérénité qui fait qu'on ne se lasse pas de les voir et qui nous donne l'idée de l'œuvre éternelle. Cette sérénité, ils l'avaient en eux, non pas seulement par l'effet de leur vie simple et tranquille, mais encore grâce à leur foi religieuse. Ils avaient conscience de leur faiblesse, et dans leur succès comme dans leur revers, ils associaient la divinité à leurs actes. Dieu est toujours là, et l'homme ne compte pas. Chez les Grecs, c'était Apollon ou Minerve. Les peintres de l'époque de Giotto prenaient aussi un protecteur céleste. C'est ainsi que leurs œuvres acquéraient cet aspect de douce sérénité qui leur donne ce charme profond et les rend immortels. Mais l'homme, dans son orgueil moderne, devait refuser cette collaboration qui le diminuait à ses yeux. Il a chassé Dieu, et en chassant Dieu, il a chassé le bonheur. Les peintres de ces époques si enviables avaient bien quelques défauts, mais en voyant leurs œuvres qui ont conservé tant de fraîcheur à travers les siècles, on ne leur trouve que des qualités. Ces œuvres qu'on aime toucher du doigt comme de beaux marbres, ces pâtes merveilleuses, ce travail divin, que vous dirais-je, me remplissent de joie. Il y a eu en France, pendant plusieurs siècles, une lutte à qui aurait le plus de goût et de fantaisie. Les châteaux sortent du sol, les bronzes, les faïences, les tapisseries donnent l'idée d'un travail de fée. Chacun veut coopérer par la terre, par le bois, par le fer, par la laine, par le marbre, à la richesse de la France. Tout a été beau, chez nous, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, depuis le château jusqu'à la plus humble chaumière. Il faut voir les albums du musée du Trocadéro pour se faire une idée de la force de ces artistes, de la fermeté du dessin dans les plus petits détails, jusque dans un verrou, jusque dans un bouton de porte. Ils ne travaillaient pas pour exposer au salon cela. Ambroise Vollard, dans Renoir, Paris, publié chez Cresse à l'époque. Maritain se plaît à citer cet échange parce qu'il y a un appui sur la tradition. L'œuvre qui suit Théonas est anti-moderne et vous comprenez que Maritain cherche des assises, des témoignages, c'est-à-dire un argument d'autorité qui n'est pas des moindres quand il s'agit du peintre Renoir. Notre époque où la charge mentale est lourde, où notre stress est puissant, nous courons dans tous les sens et nous nous endormons le soir avec encore 80% de notre emploi du temps à faire, il n'est toujours pas fait, c'est à faire pour demain et après-demain. Eh bien, notre époque est très en contraste avec ce que dit Renoir en disant « Dans leur succès comme dans leurs œuvres, ils associaient la divinité à leur acte. Dieu est toujours là et l'homme ne compte pas. » Ce qui donne une sérénité dans les œuvres des peintres. S'il n'y a pas de progrès en art, mais un renouvellement, même s'il faut s'appuyer sur la tradition pour progresser un tout petit peu dans sa technique, mais les couleurs primaires, les couleurs basiques sont les mêmes au temps de Renoir et de Pompéi. En revanche, qu'en est-il au plan spéculatif, dans la pensée ? Il en va tout autrement, répond Théonas, de l'ordre spéculatif ou de la science, où il ne s'agit plus d'opérer dans une matière, mais au contraire d'amener la vérité dans l'âme. Ici, c'est la matière qui, revêtue par la connaissance d'un mode d'être immatériel, subit les conditions de l'esprit. Et comme l'amplitude de l'esprit est sans borne, et qu'une vérité ne chasse pas l'autre, mais s'y ajoute, c'est la loi de l'accroissement qui, dans la science comme telle, tendra toujours à prédominer. Aussi bien la science, parce qu'elle requiert essentiellement la concaténation des concepts et des moyens termes, et parce que la transmission intellectuelle des biens acquis, la via disciplinae, y joue le principal rôle. La science humaine exige-t-elle, dans ce qu'elle a de plus formel et comme une condition nécessaire de son accroissement, tradition et enseignement. Alors je donne un petit éclairage sur concaténation des concepts et des moyens termes. Catena, la chaîne qui forme le radical de concaténation, veut dire qu'on a soudé les choses. Donc on a soudé comment ? Par accroissement, c'est-à-dire tradition et enseignement, ce que Maritain va résumer tout au long de son œuvre par un seul mot, en métaphysique ou en philosophie, on progresse par approfondissement. L'inscription dans une tradition, c'est donc par approfondissement et non par rejet, coup de mode, rejet de ce qui précède, modernisme, etc. Ce sera l'objet du livre suivant, Antimoderne. Ce n'est donc pas au changement à la loi de l'autre comme tel, c'est au progrès, à la loi de l'augmentation et du perfectionnement, que la vie spéculative sera avant tout soumise. On comprend dès lors qu'en dépit de déchets accidentels, les sciences mathématiques, celles de toutes les sciences qui sont le mieux proportionnées à l'esprit humain, nous offrent un admirable exemple de développement progressif. Remarquons toutefois que leur progrès comporte normalement des révolutions, qui ne sont pas destructives mais fécondes, telle l'invention de la méthode infinitésimale. C'est que leur objet, restant lié malgré tout à des données imaginatives et par suite n'étant pas un pur intelligible, admet une certaine multiplicité et donc une certaine possibilité de renouvellement du côté des conditions premières, elles-mêmes sous lesquelles il se présente aux prises de l'intelligence. Et il permet mieux que tout autre les trouvailles du génie individuel, par là même que placé à mi-chemin entre l'être mobile du philosophe de la nature, trop engagé dans la matière, et l'être en tant qu'être du métaphysicien, trop dégagé de la matière, il est le mieux à la portée de notre esprit et le plus maniable à la raison. Même progrès est plus frappant peut-être dans les sciences physico-mathématiques, c'est-à-dire physique, depuis Galilée. C'est-à-dire dans l'art de traduire en symboles quantitatifs les phénomènes sensibles. Précisément parce que ces disciplines sont à vrai dire les plus pauvres de toutes en intelligibilité et les moins exigeantes en intellectualité, et donc les plus faciles. Et révolutions plus fréquentes encore parce que les théories proposées à l'esprit ne sont pas là mesurées directement par le réel, mais seulement par leur aptitude à soutenir le réseau des formulations mathématiques vérifiées par l'expérience. On voit ici se dessiner ce qui donnera les degrés du savoir, œuvre de 1932, avec la répartition entre sciences expérimentales, biologie et physique, pour le premier degré d'abstraction, deuxième degré d'abstraction, les mathématiques, et puis troisième degré d'abstraction, la métaphysique. Cette répartition, Maritain la reprend, l'approfondit à Saint-Thomas d'Aquin, et ici, nous avons donc en 1921, dans Théonas, une réflexion libre sous forme d'un dialogue imaginé, intégré dans une présentation fictive avec l'arrivée donc de Philonous à Paris, deux problèmes qui semblent rejoindre ce que Claudel fera dans Conversation dans Loir-et-Cher, par exemple, ou dans Jacques le Fataliste, des discussions impromptues. C'est une tradition éminemment française qui permet de poser les jalons de toute l'œuvre de Maritain qui suivra.